Balthazar Gracian, l'homme de cour. 41. N'exagérez jamais. C'est faire en homme sage de ne parler jamais en superlatif, car cette manière de parler blesse toujours ou la vérité ou la prudence. Les exagérations sont autant de prostitutions de la réputation, en ce qu'elle découvre la petitesse de l'entendement et le mauvais goût de celui qui parle. Les louanges excessives réveillent la curiosité et aiguillonnent l'envie, de sorte que, si le mérite ne correspond pas au prix qu'on lui a donné, comme il arrive d'ordinaire, l'opinion commune se révolte contre la tromperie et tourne le flatteur et le flatté en ridicule. C'est pourquoi l'homme prudent va bride en main et aime mieux pécher par le trop peu que par le trop. L'excellence est rare et par conséquent il faut mesurer son estime. L'exagération est une sorte de mensonge. À exagérer, on se fait passer pour homme de mauvais goût et qui pis est pour homme de peu d'entendement. 42. De l'ascendant. C'est une certaine force secrète de supériorité qui vient du naturel et non de l'artifice ni de l'affectation. Chacun s'y soumet sans savoir comment, sinon que l'on cède à une vertu insinuante de l'autorité naturelle d'un autre. Ces génies dominants sont rois par mérite et lions par un privilège qui est né avec eux. Ils s'emparent du cœur et de la langue des autres par un je ne sais quoi qui les fait respecter. Quand de tels hommes ont les autres qualités requises, ils sont nés pour être les premiers mobiles du gouvernement politique, d'autant qu'ils en font plus d'insignes que ne feraient les autres avec tous leurs efforts et tous leurs raisonnements. 43. Parler comme le vulgaire, mais penser comme les sages. Vouloir aller contre le courant, c'est une chose où il est aussi impossible de réussir qu'il est aisé de s'exposer au danger. Il n'y a qu'un Socrate qui le put entreprendre. La contradiction passe pour une offense, parce que c'est condamner le jugement d'autrui. Les mécontents se multiplient, tantôt à cause de la chose que l'on censure, tantôt à cause des partisans qu'elle avait. La vérité est connue de très peu de gens. Les fausses opinions sont reçues de tout le reste du monde. Il ne faut pas juger d'un sage par les choses qu'il dit, attendu qu'alors il ne parle que par emprunt, c'est-à-dire par la voix commune, quoique son sentiment démente cette voix. Le sage évite autant d'être contredit que de contredire. Plus son jugement le porte à la censure, et plus il se garde de la publier. L'opinion est libre, elle ne peut ni ne doit être violentée. Le sage se retire dans le sanctuaire de son silence, et s'il se communique quelquefois, ce n'est qu'à peu de gens et toujours à d'autres sages. 44. Sympathiser avec les grands hommes. C'est une qualité de héros que d'aimer les héros. C'est un instinct secret que la nature donne à ceux qu'elle veut conduire à l'héroïsme. Il y a une parenté de cœur et de génie, et ses effets sont ceux que le vulgaire, ignorant, attribue aux enchantements. Cette sympathie n'en demeure pas à l'estime. Elle va jusqu'à la bienveillance, d'où elle arrive enfin à l'attachement. Elle persuade sans parler. Elle obtient sans recommandation. Il y en a une active et une passive. Et plus elles sont sublimes, plus elles sont heureuses. L'adresse est de les connaître, de les distinguer et d'en savoir faire l'usage qu'il faut. Sans cette inclination, tout le reste ne sert de rien. 45. User de réflexion sans en abuser. La réflexion ne doit être ni affectée ni connue. Tout artifice doit se cacher, d'autant qu'il est suspect. Encore plus toute précaution, parce qu'elle est odieuse. Si la tromperie est en règne, redoublez votre vigilance, mais sans le faire connaître, de peur de mettre les gens en défiance. Le soupçon provoque la vengeance et fait penser à des moyens de nuire auxquels on ne pensait pas auparavant. La réflexion qui se fait sur l'état des choses est d'un grand secours pour agir. Il n'y a point de meilleure preuve du bon sens que d'être réflexif. La plus grande perfection des actions dépend de la pleine connaissance avec laquelle elles sont exécutées. 46. Corriger son antipathie. Nous avons coutume de haïr gratuitement, c'est-à-dire avant même que de savoir quel est celui que nous haïssons. Et quelquefois, cette aversion vulgaire ose bien attaquer de grands personnages. La prudence la doit surmonter, car rien ne décrédite davantage que de haïr ceux qui méritent le plus d'être aimés. Comme il est glorieux de sympathiser avec les héros, il est honteux d'avoir de l'antipathie pour eux. 47. Éviter les engagements. C'est une des principales maximes de la prudence. Dans les grandes places, il y a toujours une grande distance d'un bout à l'autre. Il en est de même dans les grandes affaires. Il y a bien du chemin à faire avant que d'en voir la fin. C'est pourquoi les sages ne s'y engagent pas volontiers. Ils en viennent le plus tard qu'ils peuvent à la rupture, attendu qu'il est plus facile de se soustraire à l'occasion que d'en sortir à son honneur. Il y a des tentations du jugement. Il est plus sûr de les fuir que de les vaincre. Un engagement en tire après soi un autre plus grand, et d'ordinaire, le précipice est à côté. Il y a des gens qui, de leur naturel et quelquefois aussi, par un vice de nation, se mêlent de tout et s'engagent inconsidérément. Mais celui qui a la raison pour guide va toujours bride en main. Il trouve plus d'avantage à ne se point engager qu'à vaincre. Et quoiqu'il y ait quelque étourdi tout près de commencer, il se garde bien de faire le deuxième. 48. L'homme de grand fond. Plus on a de fond, et plus on est homme. Le dedans doit toujours valoir une fois plus que ce qui paraît dehors. Il y a des gens qui n'ont que la façade, ainsi que les maisons que l'on n'a pas achevé de bâtir faute de fond. L'entrée sent le palais, et le logement la cabane. Ces gens-là n'ont rien où l'on puisse se fixer, ou plutôt tout y est fixe, car après la première salutation, la conversation finit. Ils font leurs compliments d'entrée comme les chevaux de Sicile font leur caracol. Et puis, ils se métamorphosent tout à coup en taciturnes. Car les paroles s'épuisent aisément quand l'entendement est stérile. Il leur est facile d'en tromper d'autres qui n'ont aussi comme eux que l'apparence. Mais ils sont la fable des gens de discernement qui ne tardent guère à découvrir qu'ils sont vides au-dedans. 49. L'homme judicieux et pénétrant. Il maîtrise les objets, et jamais n'en est maîtrisé. Sa sonde va incontinent jusqu'au fond de la plus haute profondeur. Il entend parfaitement à faire l'anatomie de la capacité des gens. Il n'a qu'à voir un homme pour le connaître à fond, et dans toute son essence. Il déchiffre tous les secrets du cœur les plus cachés. Il est subtil à concevoir, sévère à censurer, judicieux à tirer ses conséquences. Il découvre tout, il remarque tout, il comprend tout. 50. ne se perdre jamais le respect à soi-même. Il faut être tel que l'on n'ait pas de quoi rougir devant soi-même. Il ne faut point d'autre règle de ses actions que sa propre conscience. L'homme de bien est plus redevable à sa propre sévérité qu'à tous les préceptes. Il s'abstient de faire ce qui est indécent par la crainte qu'il a de blesser sa propre modestie, plutôt que pour la rigueur de l'autorité de ses supérieurs. Quand on se craint soi-même, l'on n'a que faire du pédagogue imaginaire de Sénèque. 51. L'homme de bon choix. Le bon choix suppose le bon goût et le bon sens. L'esprit et l'étude ne suffisent pas pour passer heureusement la vie. Il n'y a point de perfection où il n'y a rien à choisir. Pouvoir choisir et choisir le meilleur, ce sont deux avantages qu'a le bon goût. Plusieurs ont un esprit fertile et subtil, un jugement fort et beaucoup de connaissances acquises par l'étude, qui se perdent quand il est question de faire un choix. Il leur est fatal de s'attacher au pire, et l'on dirait qu'ils affectent de se tromper. C'est donc un des plus grands dons du ciel d'être né homme de bon choix. 52. Ne s'emporter jamais. C'est un grand point que d'être toujours maître de soi-même. C'est être homme par excellence. C'est avoir un cœur de roi, attendu qu'il est très difficile d'ébranler une grande âme. Les passions sont les humeurs élémentaires de l'esprit. Dès que ces humeurs excèdent, l'esprit devient malade. Et si le mal va jusqu'à la bouche, la réputation est fort en danger. Il faut donc se maîtriser si bien que l'on ne puisse être accusé d'emportement ni au fort de la prospérité, ni au fort de l'adversité. Qu'au contraire, on se fasse admirer comme invincible. 53. Diligent et intelligent. La diligence exécute promptement ce que l'intelligence pense à loisir. La précipitation est la passion des fous qui, faute de pouvoir découvrir le danger, agissent à la boule vue. Au contraire, les sages pêchent en lenteur, effet ordinaire de la réflexion. Quelquefois, le délai fait échouer une entreprise bien concertée. La prompte exécution est la mère de la bonne fortune. Celui-là a beaucoup fait qui n'a rien laissé à faire pour le lendemain. Ce mot est digne d'Auguste. Hâtez-vous, lentement. 54. Avoir du sang aux ongles. Quand le lion est mort, les lièvres ne craignent pas de l'insulter. Les braves gens n'entendent point raillerie. Quand on ne résiste pas la première fois, on résiste encore moins la seconde. Et c'est toujours de pis en pis. Car la même difficulté qui se pouvait surmonter au commencement est plus grande à la fin. La vigueur de l'esprit surpasse celle du corps. Il la faut toujours tenir prête, ainsi que l'épée, pour s'en servir dans l'occasion. C'est par là où l'on se fait respecter. Plusieurs ont eu d'éminentes qualités, qui, faute d'avoir eu du cœur, ont passé pour morts, ayant toujours vécu ensevelis dans l'obscurité de leur abandonnement. Ce n'est pas sans raison que la nature a joint dans les abeilles le miel et l'aiguillon, et pareillement les nerfs et les os dans le corps humain. Il faut donc que l'esprit ait aussi quelque mélange de douceur et de fermeté. 55. L'homme qui sait attendre. Ne s'empresser ni ne se passionner jamais. C'est la marque d'un cœur qui est toujours au large. Celui qui sera le maître de soi-même le sera bientôt des autres. il faut traverser la vaste carrière du temps pour arriver au centre de l'occasion. Un temporisme raisonnable mûrit les secrets et les résolutions. La béquille du temps fait plus de besogne que la massue de fer d'Hercule. Dieu même, quand il nous punit, ne se sert pas du bâton, mais de la saison. Ce mot est beau. Le temps et moi, nous en valons deux autres. La fortune même récompense, avec usure, ceux qui ont la patience de l'attendre. 56. Trouver de bons expédients. C'est l'effet d'une vivacité heureuse qui ne s'embarrasse de rien, non plus que s'il n'arrivait jamais rien de fortuit. Quelques-uns pensent longtemps, et après cela, ne laissent pas de se tromper en tout, et d'autres trouvent des expédients à tout sans y penser auparavant. Il y a des caractères d'antipéristase qui ne réussissent jamais mieux que dans l'embarras. Ce sont des prodiges qui font bien tout ce qu'ils font sur le champ et font mal tout ce qu'ils ont prémédité. Tout ce qui ne leur vient pas d'abord ne leur vient jamais. Ces gens-là ont toujours beaucoup de réputation parce que la subtilité de leurs pensées et la réussite de leurs entreprises font juger qu'ils ont une capacité prodigieuse. 57. Les gens de réflexion sont les plus sûrs. Ce qui est bien est toujours à temps. Ce qui est fait incontinent se défait aussitôt. Ce qui doit durer une éternité doit être une éternité à faire. L'on ne regarde qu'à la perfection, et rien ne dure que ce qui est parfait. D'un entendement profond, tout en demeure à perpétuité. Ce qui vaut beaucoup, coûte beaucoup. Le plus précieux des métaux est le plus tardif et le plus lourd. 58. Se mesurer selon les gens. Il ne faut pas se piquer également d'habileté avec tous, ni employer plus de force que l'occasion n'en demande. Point de profusion de science ni de puissance. Le bon fauconnier ne jette de manger au gibier que ce qui est nécessaire pour le prendre. Gardez-vous bien de faire ostentation de tout, car vous manqueriez bientôt d'admirateurs. Il faut toujours garder quelque chose de nouveau pour paraître le lendemain. Chaque jour, chaque échantillon, c'est le moyen d'entretenir toujours son crédit et d'être d'autant plus admiré qu'on ne laisse jamais voir les bornes de sa capacité. 59. Se faire désirer et regretter. Si l'on entre par la porte du plaisir dans la maison de la fortune, l'on en sort d'ordinaire par la porte du chagrin, ainsi du contraire. L'habileté est plus à en sortir heureusement qu'à y entrer avec l'applaudissement populaire. C'est le sort commun des gens fortunés d'avoir les commencements très favorables et puis une fin tragique. La félicité ne consiste pas à avoir l'applaudissement du peuple à son entrée, car c'est un avantage qu'ont tous ceux qui entrent. La difficulté est d'avoir le même applaudissement à la sortie. Vous en voyez très peu qui soient regrettés. Il arrive rarement que ceux qui sortent soient accompagnés de la bonne fortune, car son plaisir est de se montrer aussi revêche à ceux qui s'en vont qu'elle est civile et caressante envers ceux qui viennent. 50. Le bon sens. Quelques-uns naissent prudents. Ils entrent par un penchant naturel dans le chemin de la sagesse. Et d'abord, ils sont presque à mi-chemin. La raison leur mûrit avec l'âge et l'expérience, et ils arrivent enfin au plus haut degré de jugement. Ils ont horreur du caprice comme d'une tentation de leur prudence. Mais surtout, dans les matières d'État, qui, à cause de leur extrême importance, exigent qu'on prenne toutes les sûretés. De tels hommes méritent d'être au timon de l'État, ou du moins d'être du conseil de ceux qui le tiennent. 61. Exceller dans l'excellent. C'est une grande singularité parmi la pluralité des perfections. Il ne peut y avoir de héros qu'il n'y ait en lui quelque extrémité sublime. La médiocrité n'est pas un objet assez grand pour l'applaudissement. L'éminence, dans un haut emploi, distingue du vulgaire et élève à la catégorie d'homme rare. Être éminent dans une profession basse, c'est être grand dans le petit et quelque chose dans le rien. Ce qui tient davantage du délectable en tient moins du sublime. L'éminence en des choses hautes est comme un caractère de souveraineté qui excite l'admiration et concilie la bienveillance. 62. Se servir de bons instruments. Quelques-uns font consister la délicatesse de leur esprit à en employer de mauvais. Point d'honneur dangereux et digne d'une malheureuse issue. L'excellence du ministre n'a jamais diminué la gloire du maître. Au contraire, tout l'honneur du succès retourne après à la cause principale, et pareillement tout le blâme. La renommée célèbre toujours les premiers auteurs. Elle ne dit jamais « cet homme a eu de bons ou de mauvais ministres », mais « il a été bon ou mauvais ouvrier ». Il faut donc tâcher de bien choisir ses ministres, puisque c'est d'eux que dépend l'immortalité de la réputation. 63. L'excellence de la primauté. Si la primauté est secondée de l'éminence, elle est doublement excellente. C'est un grand avantage au jeu d'être le premier en main, car on gagne à cartes égales. Plusieurs eussent été les phénix de leur profession si d'autres ne les eussent pas précédés. Les premiers ont le droit d'aînesse dans le partage de la réputation, et il ne reste qu'une maigre portion au second. Encore leur est-elle contestée. Ceux-ci ont beau se tourmenter, ils ne sauraient détruire l'opinion que le monde a qu'ils n'ont fait qu'imiter. Les grands génies ont toujours affecté de prendre une nouvelle route pour arriver à l'excellence, mais de telle sorte que la prudence leur a toujours servi de guide. Par la nouveauté des entreprises, les sages se sont fait écrire au catalogue des héros. Quelques-uns aiment mieux être les premiers de la seconde classe que les seconds de la première. 64. Savoir s'épargner du chagrin. C'est une science très utile. C'est comme la sage-femme de tout le bonheur de la vie. Mauvaises nouvelles ne valent rien, ni à donner ni à recevoir. Il ne faut ouvrir la porte qu'à celle du remède. Il y a des gens qui n'emploient leurs oreilles qu'à ouïr des flatteries, d'autres qui se plaisent à écouter de faux rapports, et quelques-uns qui ne sauraient vivre un seul jour sans quelque ennui, non plus que Mithridate sans poison. C'est encore un grand abus de vouloir bien se chagriner toute sa vie pour donner une fois du plaisir à un autre, quelque étroite liaison qu'on ait avec lui. Il ne faut jamais pécher contre soi-même pour complaire à celui qui conseille et se tient à l'écart. C'est donc une leçon d'usage et de justice que, toutes les fois que tu auras à choisir de faire plaisir à autrui ou des plaisirs à toi-même, tu feras mieux de laisser autrui mécontent que de le devenir toi-même et sans remède. 65. Le goût fin. Le goût fin se cultive aussi bien que l'esprit. L'excellence de l'entendement raffine le désir et puis le plaisir de la jouissance. L'on juge de l'étendue de la capacité par la délicatesse du goût. Une grande capacité a besoin d'un grand objet pour se contenter. Comme un grand estomac demande une grande nourriture, il faut des matières relevées à des génies sublimes. Les plus nobles objets craignent un goût délicat. Les perfections universellement estimées n'osent espérer de lui plaire. Comme il y en a très peu où il ne manque rien, il faut être très avare de son estime. Les goûts se forment dans la conversation, et l'on hérite du goût d'autrui à force de le fréquenter. C'est donc un grand bonheur d'avoir commerce avec des gens d'excellent goût. Il ne faut pas néanmoins faire profession de ne rien estimer, car c'est une des extrémités de la folie et une affectation encore plus odieuse que le goût dépravé. Quelques-uns voudraient que Dieu fît un autre monde et d'autres beautés pour contenter leur extravagante fantaisie. 56. Prendre bien ses mesures avant que d'entreprendre. Quelques-uns regardent de plus près à la direction qu'à l'événement. Et néanmoins, la direction n'est pas une assez bonne caution pour garantir du déshonneur qui suit un succès malheureux. Le vainqueur n'a point de compte à rendre. Il y a peu de gens capables d'examiner les raisons et les circonstances, mais chacun juge par l'événement. C'est pourquoi l'on ne perd jamais sa réputation quand on réussit. Une heureuse fin couronne tout, quoi qu'on se soit servi de faux moyens pour y arriver. Car c'est un art que d'aller contre l'art quand on ne peut pas autrement parvenir à ce qu'on prétend. 57. Préférer les emplois plausibles. La plupart des choses dépendent de la satisfaction d'autrui. L'estime est aux perfections ce que les zéphyrs sont aux fleurs, c'est-à-dire nourriture et vie. Il y a des emplois universellement applaudis et d'autres qui, bien qu'ils soient relevés, ne sont point recherchés. Les premiers gagnent la bienveillance commune parce qu'on les exerce à la vue de tout le monde. Les autres tiennent davantage du majestueux et comme tels, attire plus de vénération. Mais parce qu'ils sont imperceptibles, ils en sont moins applaudis. Entre les princes, les victorieux sont les plus célèbres. Et c'est pour cela que les rois d'Aragon ont été si fameux par leurs titres de guerrier, de conquérant, de magnanime. Que l'homme de mérite choisisse donc les emplois où chacun se connaît et où chacun a part s'il veut s'immortaliser à toute voix. 58. Faire comprendre est bien meilleur que faire souvenir. Quelquefois, il faut remémorer, quelquefois aviser. Quelques-uns manquent de faire des choses qui seraient excellentes parce qu'ils n'y pensent pas. C'est alors qu'un bon avis et de saison pour leur faire concevoir ce qui importe. Un des plus grands talents de l'homme est d'avoir la présence d'esprit pour penser à ce qu'il faut, faute de quoi plusieurs affaires viennent à manquer. C'est donc à celui qui comprend de porter la lumière, et c'est à celui qui a besoin d'être éclairé de rechercher l'autre. Le premier doit se ménager et le second s'empresser. Il suffit au premier de frayer le chemin au second. Cette maxime est très importante et tourne au profit de celui qui instruit. Et, en cas que sa première leçon ne suffise, il doit, avec plaisir, passer un peu plus avant. Après être venu à bout du non, il faut attraper adroitement un oui, car il arrive souvent de ne rien obtenir parce que l'on ne tente rien. 69. Ne point donner dans l'humeur vulgaire. C'est un grand homme que celui qui ne donne point d'entrée aux impressions populaires. C'est une leçon de prudence de réfléchir sur soi-même, de connaître son propre penchant et de le prévenir, et d'aller même à l'autre extrémité pour trouver l'équilibre de la raison entre la nature et l'art. La connaissance de soi-même est le commencement de l'amendement. Il y a des monstres d'impertinence qui sont tantôt d'une humeur, tantôt d'une autre, et qui changent de sentiment comme d'humeur. Ils s'engagent à des choses toutes contraires, se laissant toujours entraîner à l'impétuosité de ce débordement civil qui ne corrompt pas seulement la volonté, mais encore la connaissance et le jugement. 70. Savoir refuser. Tout ne se doit pas accorder, ni à tous. Savoir refuser est d'aussi grande importance que savoir octroyer, et c'est un point très nécessaire à ceux qui commandent. Il y va de la manière. Un non de quelques-uns est mieux reçu qu'un oui de quelques autres, parce qu'un non assaisonné de civilité contente plus qu'un oui de mauvaise grâce. Il y a des gens qui ont toujours un non à la bouche. Le non est leur première réponse. Et quoi qu'il leur arrive, après de tout accorder, on ne leur en sait point de gré à cause du non mal assaisonné qui a précédé. Il ne faut pas refuser tout à plat, mais faire goûter son refus à petite gorgée, pour ainsi dire. Il ne faut pas non plus tout refuser, de peur de désespérer les gens. Mais au contraire, laisser toujours un reste d'espérance pour adoucir l'amertume du refus. Que la courtoisie remplisse le vide de la faveur, et que les bonnes paroles suppléent aux défauts des bons effets. Oui et non sont bien courts à dire, mais avant que de les dire, il faut y penser longtemps. 71. N'être point inégal et irrégulier dans son procédé. L'homme prudent ne tombe jamais dans ce défaut, ni par humeur, ni par affectation. Il est toujours le même à l'égard de ce qui est parfait, qui est la marque du bon jugement. S'il change quelquefois, c'est parce que les occasions et les affaires changent de face. Toute inégalité messied à la prudence. Il y a des gens qui chaque jour sont différents d'eux-mêmes. Ils ont même l'entendement journalier, encore plus la volonté et la conduite. Ce qui était hier leur agréable oui est aujourd'hui leur désagréable non. Ils démentent toujours leur procédé et l'opinion qu'on a d'eux parce qu'ils ne sont jamais eux-mêmes. 72. Avoir de la résolution. L'irrésolution est pire que la mauvaise exécution. Les eaux ne se corrompent pas tant quand elles courent que lorsqu'elles croupissent. Il y a des hommes si irrésolus qu'ils ne font jamais rien sans être poussés par autrui. Et quelquefois, cela n'advient pas tant de la perplexité de leur jugement, qui souvent est vif et subtil, que d'une lenteur naturelle. C'est une marque de grand esprit que de se former des difficultés, mais encore plus de savoir se déterminer. Il se trouve aussi des gens qui ne s'embarrassent de rien, et ceux-là sont nés pour les hauts emplois, d'autant que la vivacité de leur conception et la fermeté de leur jugement leur facilite l'intelligence et l'expédition des affaires. Tout ce qui tombe en leurs mains est chose faite. Un de cette trempe, après avoir donné la loi à tout le monde, eut du temps de reste pour penser à un autre. De tels hommes entreprennent tout à coup sûr, sous la caution de leur bonne fortune. 73. Trouver ses défaites. C'est une adresse des gens d'esprit. Avec un mot de galanterie, ils sortent du plus difficile labyrinthe. Un sourire de bonne grâce leur fait esquiver la querelle la plus dangereuse. Le plus grand de tous les capitaines fondait toute sa réputation là-dessus. Une parole à deux ententes pallie agréablement une négative. Il n'y a rien de meilleur que de ne se faire jamais trop entendre. 74. N'être point inaccessible. Les vraies bêtes sauvages sont où il y a le plus de monde. Le difficile abord est le vice des gens dont les honneurs ont changé les mœurs. Ce n'est pas le moyen de se mettre en crédit que de commencer par rebuter autrui. Qu'il fait beau voir un de ces monstres intraitables prendre son air impertinent de fierté. Ceux qui ont le malheur d'avoir affaire à eux vont à leur audience comme s'ils allaient combattre contre des tigres, c'est-à-dire armés d'autant de craintes que de précautions. Pour monter à ce poste, ils faisaient la cour à tout le monde. Mais depuis qu'ils le tiennent, il semble qu'ils veulent prendre leur revanche à force de braver les autres. Leur emploi demanderait qu'ils fussent à tout le monde, mais leur superbe et leur mauvaise humeur font qu'ils ne sont à personne. Ainsi, le vrai moyen de se venger d'eux, c'est de les laisser avec eux-mêmes, afin que tout commerce leur manquant, ils ne puissent jamais devenir sages. 75. Se proposer quelques héros, non pas tant à imiter qu'à surpasser. Il y a des modèles de grandeur et des livres vivants de réputation. Que chacun se propose ceux qui ont excellé dans sa profession, non pas tant pour les suivre que pour les devancer. Alexandre pleura, non pas de voir Achille dans le tombeau, mais de se voir lui-même si peu connu dans le monde en comparaison d'Achille. Rien n'inspire plus d'ambition que le bruit de la renommée d'autrui. Ce qui étouffe l'envie fait respirer le courage. 76. N'être pas toujours sur le plaisant. Outre que la prudence paraît dans le sérieux est plus estimé que le plaisant. Celui qui plaisante toujours n'est jamais homme tout à bon. Nous traitons ces gens-là comme les menteurs, en ne croyant jamais ni les uns ni les autres, la gausserie n'étant jamais moins suspecte que le mensonge. L'on ne sait jamais quand il parle par jugement, qui est autant que s'il n'en avait point. Il n'y a rien de plus déplaisant qu'une continuelle plaisanterie. En voulant s'acquérir la réputation de galant, on perd la réputation d'être cru sage. Il faut donner quelques moments à l'enjouement, et tout le reste est sérieux. 77. S'accommoder à toutes sortes de gens. Sage est le protée qui est saint avec les saints, docte avec les doctes, sérieux avec les sérieux, et jovial avec les enjoués. C'est là le moyen de gagner tous les cœurs, la ressemblance étant le lien de la bienveillance. Discerner les esprits et par une transformation politique, entrer dans l'humeur et dans le caractère de chacun, c'est un secret absolument nécessaire à ceux qui dépendent d'autrui. Mais il faut pour cela un grand fond. L'homme universel en connaissance et en expérience a moins de peine à s'y faire. 78. L'art d'entreprendre à propos. La folie entre toujours de volée, car tous les fous sont hardis. La même ignorance qui les empêche premièrement de prendre garde à ce qui est nécessaire, leur ôte ensuite la connaissance des fautes qu'ils font. Mais la sagesse entre avec beaucoup de précautions. Ces coureurs sont la réflexion et le discernement, qui font le guet pour elle, afin qu'elle avance sans rien risquer. La discrétion condamne toutes sortes de témérités au précipice, quoique le bonheur les justifie quelquefois. Il faut aller à pas comptés où l'on se doute qu'il y a de la profondeur. C'est au jugement à essayer et à la prudence à poursuivre. Il y a aujourd'hui de grands écueils dans le commerce du monde. Il faut donc prendre garde à bien jeter son plomb. 79. L'humeur joviale. C'est une perfection plutôt qu'un défaut quand il n'y a point d'excès. Un grain de plaisanterie assaisonne tout. Les plus grands hommes jouent d'enjouement comme les autres pour se concilier la bienveillance universelle. Mais avec cette différence qu'ils gardent toujours la préférence à la sagesse et le respect à la bienséance. D'autres se tirent d'affaire par un trait de belle humeur, car il y a des choses qu'il faut prendre en riant, et quelquefois celles même qu'un autre prend tout de bon. Une belle humeur, élément des cœurs. 80. Être soigneux de s'informer. La vie se passe presque toute à s'informer. Ce que nous voyons est le moins essentiel. Nous vivons sur la foi d'autrui. L'ouïe est la seconde porte de la vérité et la première du mensonge. D'ordinaire, la vérité se voit, mais c'est un extraordinaire de l'entendre. Elle arrive rarement toute pure à nos oreilles, surtout lorsqu'elle vient de loin, car alors, elle prend quelques teintures des passions qu'elle rencontre sur sa route. Elle plaît ou déplaît, selon les couleurs que lui prête la passion ou l'intérêt, qui tend toujours à prévenir. Prends bien garde à celui qui loue, encore plus à celui qui blâme. C'est là qu'on a besoin de toute sa pénétration pour découvrir l'intention de celui qui tierce et de connaître avant coup à quel but il veut frapper. Sers-toi de ta réflexion à discerner les pièces fausses ou légères d'avec les bonnes.